Alors, en se posant de la première question, on pourrait discuter à différents niveaux. D'abord, vous ne comptez pas gouverner. J'ai un premier commentaire là-dessus. C'est que justement, nous nous disons qu'y compris aujourd'hui, gouverner, c'est surtout être les marionnettes politiques qui gesticulent au bout de ficelle, qui sont tenues par les possédants, par les capitalistes de la finance et de l'industrie. Le véritable pouvoir et ceux qui gouvernent réellement la société et l'économie, c'est ce grand capital. Et ça a été vraiment d'une clarté manifeste à l'occasion de cette crise. Quand même, en réalité, les plans de rigueur que la Grèce a connus, que l'Espagne a connus, que l'Irlande a connus, que nous avons connus aussi, à une dose peut-être moins violente, moins brutale, ces plans de rigueur ont été imposés au gouvernement par les puissances financières, par les grandes puissances industrielles, par la grande bourgeoisie mondiale. Et les gouvernements, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont tempéré. Donc, premier commentaire, attention, pour nous, ceux qui gouvernent, c'est pas ce qu'on croit. Hein ? Et finalement, quand Carla Bruni-Sarkozy dit que elle et son mari ne sont que des gens très modestes, ce sont, oui, de modestes serviteurs. Voilà, les modestes serviteurs de Bolloré, de Bernard Arnault, de cette grande bourgeoisie. Mais oui, c'est ça, en réalité. Alors, voilà, c'est... Et effectivement, nous, quand on parle de gouverner, quand on parle de pouvoir, bien sûr que nous, on veut le pouvoir. Mais on veut au gouvernement des travailleurs, sur toute l'économie. Pour ça, il faudrait que les travailleurs prennent le pouvoir politique. Ça leur permettrait, effectivement, y compris de dominer l'économie et de prendre en main eux-mêmes la direction des affaires, la direction de toutes les entreprises. Ensuite, je veux réagir sur une deuxième chose. Oui, alors j'ai un œil un peu calculatoire, ce qu'il faut faire, pour faire de la droite, pour ci, pour là, pour tout à l'heure, pour poser des questions très très compliquées, tu vas faire de la stratégie à deux bandes, la gogo billard, hein, c'est bon. Eh bien voilà, ça c'est l'illustration vraiment, l'illustration que finalement tu vas tout faire, sauf t'exprimer, sauf dire ce que tu penses. Eh bien voilà, ils sont très forts. Parce qu'ils ont inventé une démocratie où on s'auto-censure, où on se met soi-même le baillon, c'est mieux qu'une dictature. Ben ouais. Non. Moi, je dis au contraire, voilà, au premier tour, justement, s'il y a une chose qui est utile dans cette élection, c'est de s'exprimer, c'est de tout dire de ce qu'on pense, justement. Et encore une fois, c'est très important. Effectivement, nous, on veut le pouvoir, on veut gouverner, mais réellement avoir effectivement le contrôle de cette économie, de ces entreprises. Et pour ça, oui, on sait qu'il faudra en passer par un mouvement social. Mais pour nous, c'est pas l'utopie. Il y a eu des moments comme ça dans l'histoire où les travailleurs ont pris le pouvoir. Ça existait, les révolutions. Nous, on milite pour ça. On milite pour ça, mais c'est pas que militer voilà, pour l'avenir très 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 lointain. C'est aussi avoir une politique tout de suite là pour les travailleurs et les seuls à être capables de la mettre en avant. Parce que justement, je rejoins l'intervention, on est les seuls, oui, à dire qu'il faut interdire les licenciements. On est les seuls. Oh, il y a Philippe Poutou, pardon. Voilà. Avec Philippe Poutou, bon. Mais, par exemple, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas ça. Il dit interdire les licenciements boursiers. Parce que bah, Jean-Luc Mélenchon, finalement, il réfléchit, attention, quand une entreprise est en difficulté, eh bien, il faut la laisser libre, finalement. Libre de licencier, libre de mettre sur le carreau les travailleurs. C'est-à-dire qu'une entreprise, il ne faut pas qu'elle soit en difficulté, mais les travailleurs, eux, bah, tant pis, s'ils le sont. Voilà, c'est-à-dire que, y compris Jean-Luc Mélenchon, hein, qui se tarde d'être plus à gauche, etc., eh bien, les mesures qu'il met en avant, elles restent dans le cadre limité de ce qui peut être tolérable par la bourgeoisie, acceptable dans le cadre de ce système. Eh bien, nous, nous disons non. Nous nous plaçons effectivement de quoi les travailleurs ont-ils besoin là, aujourd'hui. Ils ont besoin d'un emploi, ils ont besoin d'un salaire, et il faut se battre là-dessus. Et il faudra faire reculer la bourgeoisie jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Et y compris s'il faut aller plus loin, s'il faut aller jusqu'à contrôler nous-mêmes les entreprises, y il faut qu'on se batte là-dessus. Si on ne comprend pas qu'on renonce, parce que si on renonce à tout cela, eh bien, ça veut dire qu'on accepte de sacrifier, de reculer encore et toujours. Alors voilà, c'est effectivement à la fois dans les élections, comme je le dis, lever le drapeau de la révolution sociale, mais c'est aussi avancer, montrer qu'on a une politique pour les travailleurs, une vraie politique, pour eux, une politique de classe. Et ça, on peut le faire dans cette élection, on peut le faire au premier tour. Et si on est des centaines de milliers à voter, justement, dans ce sens-là, pour affirmer cela, ça pèsera pas beaucoup face aux millions qui auront voté, je ne sais pas, pour Hollande, par exemple. Ça fera peut-être pas beaucoup par rapport à ça, et ça sera pas suffisant pour être élu, ça c'est sûr. Mais ça sera énorme. Énorme. Imagine 400, 500 000 personnes dans le pays convaincues qu'il faut se préparer à ça, qu'il faut semer ce programme-là, qu'il faut militer pour ça auprès de ses camarades de travail, qui font cheminer ses idées, qui arrivent à les convaincre que c'est ça qu'il faudrait mettre en œuvre. Eh bien, imagine ce que ça peut être capable de faire quand les travailleurs vraiment sont décidés à se battre et à plus se laisser faire. Eh bien, c'est grâce à tout cela, à leur présence, grâce à la présence de ce programme, que oui, ces luttes, elles sont capables de changer vraiment le cours des choses pour les travailleurs, et j'espère même d'ouvrir des perspectives pour changer toute la société. Alors, j'ai pas évoqué, oui, les dom-toms, mais en même temps, j'en ai quand même parlé, parce que bon, je ne fais pas la liste de tous les opprimés, de tous les exploités sous leurs facettes diverses et variées. Je n'ai pas fait spécifiquement de développement sur les femmes. Et pourtant, les travailleuses femmes, ben justement, ça fait partie des plus exploitées des exploités. Je n'ai pas fait de développement particulier vis-à-vis de tous les travailleurs, effectivement, immigrés ou d'origine étrangère, ou qui subissent les discriminations. Et je n'ai pas fait de développement, effectivement, sur les travailleurs, sur les dom-toms, mais pour moi, c'est une seule et même classe ouvrière. Et quand je parle des salaires qui sont trop bas et qui ne permettent pas de vivre, quand je dénonce l'explosion des prix, quand je dis qu'il serait vital de combattre le chômage, bien sûr que je parle aussi pour les travailleurs des dom-toms, de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Quand j'avance cette revendication d'indexer les salaires, les pensions de retraite, les allocations sur les prix, c'est même pas... c'est pas une invention, enfin... En Guadeloupe, ils sont battus pour ça. Ils sont battus pour ça. Le contrôle sur les prix, ils ont même réussi, au travers de leur combat, à mettre en place des comités de contrôle de prix, d'organiser les ménagères, d'organiser les travailleurs par supermarché et d'imposer effectivement que les prix soient contrôlés au jour le jour, leur évolution, et de faire pression comme ça. Tout ça, ils ont compris, commencé à le mettre en œuvre dans leur combat en Guadeloupe. Alors voilà, tout ce que j'ai avancé, cette situation que j'ai décrite, c'est vrai pour tous les travailleurs. C'est vrai pour les travailleurs des dom-toms, c'est vrai pour les travailleurs de toutes les régions de France, c'est vrai pour les travailleurs quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine. Et je crois que les revendications que j'ai mises en avant, c'est vraiment des revendications justement dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. C'est des revendications qui unifient. C'est les revendications autour desquelles on peut se retrouver, être unis, se battre. Voilà. Et moi, j'espère effectivement que cette interdiction des licenciements, ça soit justement un objectif qui ne soit pas seulement limité, limité à ceux qui sont confrontés aux fermetures d'usines et confrontés eux-mêmes au licenciement. Moi, j'espère que ça sera l'affaire de tous. Que désormais, quand il y a un licenciement, que ce soit dans une entreprise à l'autre bout du pays, tout le monde doit se sentir concerné. Et que cette revendication, ça doit être notre affaire à tous. Et ça doit être effectivement un de nos objectifs, l'objectif, j'espère, des luttes qui surviendront de nous. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est sa politique. Hein, c'est sa politique depuis toujours au Parti communiste. Et c'est vrai que, bon, bah, finalement, il garde le mot communiste dans son appellation, hein, le Parti communiste, mais ça fait en réalité longtemps que le Parti communiste a abandonné la perspective communiste révolutionnaire dont j'ai parlé. Cette perspective-là qui a été portée par des générations de femmes et d'hommes, de se dire qu'il n'y a pas de raison que cette société elle soit gouvernée par une minorité de parasites, tout simplement, parce qu'ils ont rapporté les capitaux. Hein, il y a eu, voilà, depuis que les travailleurs en fait existent, depuis qu'il classe ouvrière est née, il y a de nouveau des ouvriers qui ont dit, ça c'est pas normal, c'est pas acceptable. Et il faut se battre pour, que, pour une autre société sans exploitation, sans qu'il y ait cette bourgeoisie, toujours. Alors, eh bien, il y a eu les premiers partis socialistes, hein. Les premiers c'était les socialistes, c'était les vrais, les socialistes révolutionnaires. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, après c'est le Parti communiste qui a pris cette relève de cette perspective, de cet idéal. Et en réalité, bah, ça n'a pas tenu longtemps. Hein, à partir du moment où le Parti communiste a été soumis au stalinisme, eh bien, il s'est détourné hein, de cette perspective. Il s'est détourné, et le Parti communiste, bah, il a fait comme le Parti socialiste. Il s'est intégré à l'appareil d'État. Il a même été au pouvoir à plusieurs reprises et il a géré loyalement les affaires de la bourgeoisie. Pour nous, ça fait bien longtemps que le Parti communiste ne met plus en avant hein, les véritables perspectives communistes révolutionnaires, ça fait bien longtemps. Et ça remonte à même plus loin que Marché, ça remonte en fait à Thorez, hein, à la fin des années 20. Et donc, voilà, le Parti communiste, il a eu cette même politique avec Mitterrand. C'était exactement la même politique que le Front de Gauche défend aujourd'hui, exactement la même perspective. Il disait au premier tour, il faut être une grosse force à gauche, hein, à gauche, qui pèse à gauche. Et puis, quand on aura des ministres comme ça, eh bien, on pourra imposer des choses à Mitterrand. On pourra l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. Et ça, ils l'ont fait. Ils l'ont mené cette politique. Et ils l'ont mené alors qu'au premier tour, ils pesaient 16, 17, 18%. Alors qu'effectivement, ils étaient une véritable force. Force électorale, mais aussi alors qu'ils avaient des dizaines, des centaines de milliers de militants dans le pays. Ils étaient une véritable force dans la classe ouvrière. Alors cette politique, ils l'ont menée, ils l'ont expérimentée. Et cette politique, eh bien, on ne peut que constater qu'elle a échoué, qu'elle a été un échec cuisant. Ils n'ont rien pesé sur Mitterrand, rien du tout. Et au contraire, ils ont assumé, hein, ils ont pris sur leur épaule finalement toutes les trahisons de ce gouvernement Mitterrand, et après ils en ont rajouté une bouche. Avec Jospin, voilà. Eh bien, ils sont prêts, là. Ils sont prêts, avec le Front de Gauche et avec Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il en dise aujourd'hui, ils sont prêts, à nouveau, hein, à servir la soupe, effectivement, à Hollande. Et à être la cinquième roue du carrosse. Parce qu'ils sont la cinquième roue du carrosse, en réalité. Alors nous, ben non. Cette politique-là, il est absolument hors de question hein, de mettre un doigt dedans. Je sais bien, je veux juste terminer en disant, je sais bien que c'est, évidemment, c'est pas la facilité. Hein, c'est tellement plus facile de dire, ben oui, il suffira de bien voter et puis on va obtenir quelque chose qui va arranger nos affaires. Hein, un gouvernement qui va arranger nos affaires quelque part, ça a le mérite de se dire, on peut se raccrocher à ça. Eh bien, voilà, il ne faut pas avoir d'illusions. Non, il ne faut pas avoir d'illusions. Ça ne sera pas facile. Mais il n'y aura pas le choix. Il va falloir renouer avec les luttes. Il va falloir s'organiser. Il va falloir se mobiliser. C'est comme ça qu'on pourra peser. Et on ne pèsera pas seulement sur Hollande, parce que peser sur Hollande, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de peser sur le patronat. C'est de peser sur cette bourgeoisie. De l'obliger à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. C'est-à-dire de prendre ses profits pour assurer ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc voilà, ça sera incontournable. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on sera condamné. Voilà. Donc, il n'y a que cette politique-là. Alors, on ne sera peut-être pas nombreux, mais cette politique, elle existe. Et il n'y a pas de raison de se résigner. Donc, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui la portent, qui lèvent ce drapeau. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des syndicats ouvriers. Mais tu vois, tu as dit la défense des salariés par les syndicats. Moi, dans tout mon exposé, dans toute mon allocution, j'ai dit la défense des salariés par les salariés eux-mêmes. Voilà, par les salariés eux-mêmes. Et bien sûr que les salariés doivent s'organiser. Et bien sûr que les syndicats, ben, c'est la première forme d'organisation dans les entreprises. Et on en est, et tu le sais très bien. Enfin, je pense quand même. Ici, je ne sais pas, tout ce temps qu'on est, on est tous syndiqués. Hein. Ben bien sûr, parce que voilà, c'est la première façon, effectivement, de pouvoir faire entendre, de pouvoir discuter entre nous de nos problèmes, et puis de voir comment on peut peser. Bien évidemment, c'est la force collective. Donc bien sûr que nous, on milite hein, pour que les syndicats ils soient les plus forts possibles, c'est-à-dire qu'il y ait plus de syndiqués possibles, qu'il y ait de plus en plus de travailleurs qui s'occupent collectivement de leurs affaires. Bien sûr, Bon, et en même temps, et bien en même temps, bah, on critique, oui, et on a bien des choses à reprocher aux directions syndicales. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain, parce qu'aujourd'hui, bah, ces directions syndicales, on ne les entend pas. Et elles ne disent pas aux travailleurs ce qu'il en est de la situation, de cette guerre de classe là qui est menée, hein, de ce rouleau compresseur qui est en route. Et elles ne disent pas aux travailleurs que il va falloir relever le gant, qu'il va falloir rendre coup pour coup, que face à toutes ces attaques et face à cette guerre menée par la bourgeoisie, il faut que les travailleurs aient aussi leur plan pour s'organiser, pour riposter. Nous, on ne reproche pas aux syndicats, c'est pas une question de ne pas appeler à la manifestation, à telle grève, à tel ou tel moment, parce que ça, c'est pas là-dessus que la critique elle porte. Hein, si demain les syndicats appelaient à une grève générale, moi je ne sais pas si ça marcherait, j'en sais rien du tout. D'ailleurs, je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait sans doute s'y prendre. Mais dans tous les cas, leur responsabilité aux directions syndicales, c'est de dire ce qu'il faudrait. C'est de dire comment faire, comment construire ce rapport de force. Et c'est sûrement pas faire ce qu'ils font aujourd'hui, hein, en essayant effectivement seulement d'être invités autour d'une table ronde, d'être associés aux décisions, sûrement pas ça. Sûrement pas ça. Donc bien sûr des syndicats, mais les syndicats, eh bien justement, il faut se battre aussi pour qu'ils soient le reflet de ce qu'on a envie qu'ils soient. De se battre pour que la politique des syndicats, ce soit celle qu'on a choisie. Voilà. Donc là aussi, c'est un combat, il faut oui commencer par ça, c'est sûr. Et puis ben voilà. Alors Philippe Poutou, j'ai des bonnes relations avec lui, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai dit, j'espère qu'il sera candidat. Et franchement, ça sera très bien et ça sera tant mieux qu'ils aient à se coltiner de candidats contre eux, ça c'est sûr. Mais moi je vois aucun problème à ça. Hein, et on n'est pas nous pour s'allier à tout prix, qu'il y ait qu'un seul candidat, etc. Non, il n'y a pas de raison. On est deux courants, deux sensibilités différentes, on a des différences. Et nous on y tient, parce que justement nous on tient à mettre en avant nos convictions communistes. J'ai entendu Philippe Poutou dernièrement expliquer, mais alors, si on renverse la société capitaliste, qu'est-ce qu'on met à la place? Je l'ai entendu répondre, eh ben ça on sait pas. Eh ben nous on sait. Mais oui, parce que, bien sûr que moi je ne sais pas à quoi ressemblera la société communiste, mais quand même, la base c'est quoi? À quoi elle ressemblerait cette société? Eh bien au moins que les moyens de production, que les entreprises, que les grandes chaînes de distribution, que l'énergie, propriété collective. C'est quand même ça le communisme. C'est quand même l'idée aussi que, à la place de cette économie qui n'est pas organisée, où finalement ils maîtrisent absolument rien, où on produit au hasard, on ne sait même pas si on produit trop ou pas assez, puis on verra si les prix montent, si les prix baissent, c'est quand même de planifier un certain nombre de choses, c'est-à-dire de voir quelles sont les possibilités qu'on a de produire les richesses. Quels sont les moyens de production qu'on a sous la main et quels sont les besoins de la population et de faire correspondre les deux. Ce serait ça, une société, une économie organisée correctement, une ménagère. Elle sait faire ça tous les jours. Et c'est un exploit, bien souvent. Bien souvent, c'est un exploit. Et comment les travailleurs collectivement ne seraient pas à peu près de la même façon. Et il y aura aussi des choses que moi je dirai en plus. Il y aura des choses aussi que lui dira sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Bon, je ne vais pas développer, mais il y a toute une série de prises de position qui en fait s'expliquent aussi toujours. À part justement cet abandon-là de cette perspective en réalité communiste, révolutionnaire. Donc voilà, moi je trouve ça très bien. On n'est pas, nous, pour le parti unique. À l'extrême gauche. Hein, oui, moi je suis pour une révolution, je suis pour que les travailleurs renverse la classe capitaliste et puis finalement dirige même hein, l'économie collectivement. Mais ça ne veut pas dire pour moi supprimer les élections, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut. Et ça sera bien le contraire. Mais ça sera des élections cette fois-ci qui auront vraiment des conséquences, qui auront vraiment un impact. Mais tous ceux qui ont vécu des grèves, des mouvements sociaux, ils ont bien vu qu'on n'arrêtait pas de voter, on n'arrête pas de voter. Dans une période où, au contraire, il y a des mouvements, c'est des milliers, des dizaines de milliers, et des fois plus, dans des révolutions de travailleurs qui s'éveillent à la politique, qui discutent de tous les côtés. C'est la multiplication, au contraire, des partis politiques, des tendances, des courants. Et c'est des votes du début, du matin jusqu'au soir. Et c'est très bien, et c'est normal. Et nous, bien sûr qu'on milite pour ça. Et dans une société où les travailleurs, là, se diraient, ben oui, là, je peux dire mon mot, mais je peux non seulement dire mon mot, mais c'est pris en compte, ça compte. Et avec tous les autres, eh bien oui, je peux diriger, je peux être actif, je ne fais pas que voter, et puis cinq ans après, on me rappelle pour voter, alors qu'on va s'asseoir sur tout ce que, hein, sur, y compris sur les promesses qui ont été faites, etc. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi je crois qu'au contraire, non, il y aura. Bien sûr qu'il faut voter, bien sûr que c'est la démocratie, mais cette fois-ci la vraie démocratie. C'est-à-dire, on vote collectivement, on décide et on applique. C'est pas la démocratie qu'on connaît, hein, où on a le droit de voter pour des candidats qui se présentent avec plein de promesses, qui une fois au pouvoir les oublient, et nous on est obligés d'attendre, hein, 5 ans après, pour les sanctionner. C'est pas de cette démocratie-là, évidemment, dont je parle. C'est la véritable démocratie. Où on vote, où on donne les moyens d'appliquer, de les mettre en application. Donc voilà pourquoi effectivement nous on assume tout à fait qu'il y ait différents courants d'extrême gauche, qu'ils puissent s'exprimer. On pense que c'est tout à fait souhaitable dans les élections là présidentielles, et on pense que c'est indispensable dans les mouvements sociaux, dans les grèves, dans les luttes, et que c'est comme ça que ces mouvements sociaux peuvent avancer, peuvent aller de l'avant. Y compris c'est comme ça qu'on peut faire mûrir. Hein, les consciences. Donc, ben voilà, je crois que j'ai terminé pour ce soir.